Malheureusement, les autres n'ont pas pu venir aujourd'hui. Ce projet, encore une fois, est un projet assez simple, une étude psychologique qui analyse quelque chose qui est ressorti plusieurs fois aujourd'hui, qui est l'habilité des personnes de travailler avec les nuances sémantiques des mots et l'habilité de gérer cela dans des situations critiques, comme d'essayer d'avoir un consentement informé ou de donner de mauvaises nouvelles, qui pourraient avoir un impact important sur le patient ou la patiente. Ce type de question n'a jamais été étudié directement dans le contexte des soins de santé ou avec l'idée de la communication de la part des professionnels de la santé. Alors, ceci est vraiment innovateur dans le sens qu'on essaie de voir si on peut développer une technique pour évaluer la capacité de gérer ces nuances sémantiques. Alors, comme j'ai mentionné, ces habilités pourraient être très importantes pour évaluer les niveaux de risque, donner des mauvaises nouvelles, etc. Et ultimement, les populations qui nous intéressent avec ça seront les professionnels de la santé et la formation, à voir si on peut identifier des zones de gestion de la sémantique qui peuvent être intégrées à leur formation et certaines des techniques dont on a entendu parler plus tôt pourraient être utiles pour cela. Et on regarde ce qu'on appelle les adverbes épistémiques parce qu'on croit que ceux-ci peuvent être un obstacle. Ceux-ci sont des adverbes comme probablement, supposément, etc. Et ceux-ci sont des mots intéressants parce que, premièrement, ils sont utilisés lorsque l'on parle de choses incertaines dans le futur, comme lorsque l'on fait une évaluation des risques. Et tous ces mots, évidemment, parlent de la probabilité que quelque chose pourrait arriver. Ceci va probablement arriver, définitivement que ceci arrivera, mais il y a beaucoup plus que cela que simplement la probabilité que quelque chose survienne. Ces mots contiennent également de l'information sur la relation de la personne avec l'information. Si quelqu'un dit définitivement ce médicament fonctionnera, cela donne un message un peu différent que il semblerait que ce médicament va vous aider, vous serez beaucoup plus confiant avec le premier message qu'avec le deuxième. Alors la question est à savoir est-ce que les personnes, en utilisant une langue seconde, comprennent ces différences sémantiques. Ce sont des différences subtiles de sémantique. Il y a une théorie linguistique que l'on a trouvée de Anna Winwischka et d'un article de 2006 qui regarde ce qu'on appelle les scripts culturels, différentes façons qu'une culture pourrait vouloir intégrer toute cette information dans la façon que la langue est utilisée. Et il a identifié quatre dimensions qui ont à voir avec les adverbes épistémiques. Et on a pensé à voir si ça pouvait être une bonne façon d'analyser la capacité de la personne et analyser la différence. Alors, l'objectif de l'étude est à savoir si, dans la langue maternelle, les personnes traitent ces quatre éléments de la façon que la littérature dit qu'ils doivent être utilisés. Alors, on voulait une validation psychologique de la théorie. Deuxièmement, on supposait que les personnes qui de langue seconde n'ont peut-être pas un aussi grand accord avec ceux-ci parce qu'ils ne les connaissent pas bien aussi bien qu'une personne qui est dans sa langue maternelle et peut-être que la compréhension de ceux qui parlent la langue en tant que langue seconde serait différente que ceux pour qui c'est la langue maternelle. Il n'y a rien dans la littérature que l'on sache pour étudier ce type de questions. Alors, on a dû inventer les méthodes et on a développé un questionnaire avec des éléments comme ceux que vous voyez ici à l'écran, où les participants voient une phrase. Oups, ça sort mal ici dans la phrase, mais bon. Et ils doivent encercler le bon chiffre qui représente, selon eux, à savoir si la phrase, dans ce cas-ci ici, et dans ce cas-ci, à savoir si le médecin rapportant l'information est basée sur la connaissance personnelle ou sur une autre source de connaissance. Alors, il y avait des questionnaires basés sur les 12 adverbes épistémiques en anglais, un autre 12 en français, et chacun de ceux-ci arrivait dans différentes phrases, l'une étant positive dans sa nature, l'autre négative et l'autre neutre. Il y avait 4 questionnaires parce que chacune de ces combinaisons d'adverbes et était jugé dans le contexte de la première dimension, deuxième, troisième et quatrième dimension. Et nous avions également la même équipe de temps de réaction pour cette étude, comme je mentionnais dans l'étude antérieure. Lorsque l'on a trouvé qu'il semblerait que notre échantillon était très élevé dans leur connaissance de la langue seconde, ça a peut-être été une limitante pour notre étude. Les anglophones avaient une langue seconde très forte, mais elle était moins forte que les francophones qu'on a trouvé ne semblait pas avoir de grande différence entre leur langue maternelle et leur langue seconde, et on a besoin de cette variabilité de façon à avoir des résultats que l'on peut bien interpréter. Les personnes dans leur langue maternelle, lorsque les personnes étaient en train de juger des langues dans leur langue maternelle, ils étaient très d'accord avec la façon qu'ils étaient évalués. Il y avait une bonne interaction entre le facteur de dimension. Et ce que cela montre est que cela appuie la théorie de Hitchcock qui montre qu'il peut avoir des différences au niveau des différentes dimensions. Et l'importance de la phrase est une considération très importante à avoir en tête lorsqu'on fait ce type d'étude. Alors, initialement, nous avions pensé que c'était peut-être pas très important, l'importance de l'information dans la phrase, que n'importe quelle phrase fonctionnerait, mais ça ne semble pas être le cas. On pensait qu'il y aurait une variabilité au niveau de la langue seconde dans l'utilisation des adverbes. Ce n'est pas le cas selon les mesures que l'on a utilisées jusqu'à maintenant, mais on doit essayer de voir comment on va utiliser cela dans une prochaine étude. Il n'y avait pas autant de différence entre L1 et L2 comme on avait pensé, mais ceci reflète peut-être le fait que ces personnes bilingues avaient un très haut niveau au niveau de leur langue seconde. Alors, ce dont on a besoin, c'est d'avoir un échantillon plus diversifié de participants. On a des données qui nous disent que l'importance du message a de l'importance, et cela signifie probablement qu'on est sur la bonne voie à voir comment comprendre et analyser l'importance psychologique de ces facteurs, mais on doit trouver une façon différente d'avoir ces informations de la part de nos participants. Et ce qu'on a probablement besoin de faire, c'est d'avoir une tâche plus implicite plutôt que directe avec les questionnaires que l'on a utilisés. Alors, j'ai listé certaines de ces idées ici, et éventuellement, nous voudrions développer une version d'une tâche qui peut mesurer l'habilité de procéder avec des participants des professionnels de la santé, d'aller au-delà des adverbes épistémiques et aller à d'autres aspects de la sémantique. Et éventuellement, on pense que ceci pourrait peut-être forger un peu les modèles de formation d'une langue seconde pour essayer vraiment de trouver les nuances sémantiques dans le vocabulaire des professionnels de la santé.